Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. En effet, c'est RTL dimanche soir. On est ensemble jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. Bienvenue à tous. À la une donc, Emmanuel Macron qui serre les rangs. Le président recevra demain midi Elisabeth Borne et les cadres de la majorité à l'Élysée. Et cela à l'issue d'un week-end marqué par les violences de Sainte-Soline hier et par celles qui ont émaillé les soirées de jeudi et vendredi. À Sainte-Soline, au lendemain des affrontements, le bilan est lourd. 27 gendarmes blessés, dont 2 grièvement, côté manifestants ou casseurs. Environ 200 blessés, dont 5 graves et un qui est toujours entre la vie et la mort. Une accusation relayée par la Ligue des droits de l'homme. Les forces de l'ordre aurait entravé le travail des secours sur place. Alors on en parlera avec l'invitée de ce journal, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Et elle pourra répondre à la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui dénonce sur RTL ses élus aller à Sainte-Soline malgré l'interdiction de cette manifestation. On va d'ailleurs retourner dans les Deux-Sèvres, à Mel, où les anti-bassines ont cette fois voulu faire dans la pédagogie aujourd'hui. Quant à la violence autour de la réforme des retraites, eh bien elle s'illustre aussi ce soir par ces 6 rames de TGV qui ont été dégradées, sans doute sabotées, dans un technicentre pour les rendre inutilisables. Des explications dans un instant. La SNCF, justement, mais aussi la RATP, les avions, on vous donnera les prévisions de trafic pour mardi et la nouvelle journée d'action contre cette réforme des retraites. Sachez déjà que ce sera très perturbé dans le RER. Nous irons à Lille où un nouveau rassemblement contre la réforme est en train de commencer. Nous irons aussi dans la région de Montpellier où les automobilistes peinent à faire le plein. Et puis dans l'actualité de ce dimanche soir également, le report de la fin du ticket de caisse. Ce devait être le 1er avril mais ce sera plus tard finalement en raison de l'inflation. Le sport, le foot, demain Irlande-France pour confirmer après le match des Pays-Bas, Kylian Mbappé, le nouveau capitaine, va s'exprimer en conférence de presse et vous l'entendrez. Le cyclisme avec un joli cocorico, une première depuis 26 ans, la victoire d'un Français dans la classique Gent-Wevelgem. Chapeau donc à Christophe Laporte. Isabelle Langer y reviendra dans On refait le sport à 19h15 puisqu'elle recevra le patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Le quintet d'Auteuil, As, 13, 10, 8 et 12. Le temps, Anthony Kasparek, ça souffle. Hein.
Oui, ça souffle fort ce soir sur la côte atlantique. On vient de relever des rafales à 105 km/h à l'instant à Bordeaux, encore au Cap Ferré. Des vents qui vont souffler fort aussi cette nuit près de la Méditerranée, la Tramontane et le vent d'ouest en Corse, des rafales à 100-120 km/h. Le ciel va rester en revanche dégagé demain près de la Méditerranée, donc retour au calme aussi côté ciel pour le reste du pays. Alternance de nuages, d'éclaircies, de moins en moins d'averses au fil des heures. Il en restera encore quelques-unes le matin entre le sud-ouest et le massif central et surtout dans l'après-midi dans le nord-est avec de la neige de plus en plus bas, des 600 à 700 mètres pour le Jura et les Alpes, où le risque d'avalanche sera d'ailleurs très fort. Mais retenez que demain, ce sera un répit avec des éclaircies de plus en plus belles au fil des heures. Les températures vont donc bien baisser demain. On va se rapprocher des gelées au nord et au nord-est. Dans l'après-midi, fraîcheur pour tout le monde. 7 degrés seulement à Langres, 9 à Lille, 10 à Strasbourg et Grenoble, 11 à Paris et Lyon, mais encore 16 à Bordeaux et 21 à Bastia.
Merci Anthony. Reste avec nous car on va prendre des rafales en bord de mer dans quelques secondes. Le temps pour moi de donner la suite du programme. 18h30, Grand Jury Le Mag, la patronne de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, l'Élysée isolée, la violence qui a fini par s'inviter dans la mobilisation anti-réforme des retraites et maintenant on l'a constaté au-delà. A contrario, un reportage sur ces manifs bon enfant à l'opposé des violences organisées et puis TikTok et les applis récréatives interdits sur les téléphones des fonctionnaires, un spécialiste nous éclairera. Et puis à 18h50, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète avec comme chaque semaine un bruit d'animal à découvrir. Comme ce coq qu'on n'arrive pas à débrancher. Alors voici la version nettement raccourcie jusqu'à la chute, pour le plaisir. La suite, ce sera tout à l'heure dans On refait la planète à 7h10.
RTL dimanche soir.
Anthony Kasmarek nous a donc prévenu, ça souffle, ça va souffler, de forts coups de vent sont attendus dans l'ouest et le sud pour les prochaines heures. Ça souffle déjà sur les côtes en bord de mer. Alors direction la jetée de Saint-Jean-de-Mont en Vendée. On appelle ce lieu l'Estacade. Nicolas Bobby, vous êtes au bout de la jetée, ça doit souffler hein, depuis quelques heures.
Ah oui, cela souffle terriblement même depuis quelques minutes et l'on sent que le vent se ressouffle, se renforce. Alors je suis effectivement en pleine mer, à l'estacade de Saint-Jean-de-Mont. C'est une vaste jetée, l'originalité elle est en bois. Donc le spectacle des vagues en furie est absolument dantesque, impressionnant, on appelle cela des moutons. Devant moi l'océan est complètement déchaîné, il y a tout de même les adeptes du kitesurf qui prennent certains risques. Et sous mes pieds, entre les lattes, c'est absolument terrifiant parce que l'on voit la mer déchaînée. Cela vibre énormément sur cette jetée en bois. Mais des Vendéens sont tout de même venus en famille admirer ce gros coup de vent.
On vient à l'instant de risquer de se faire mouiller à faire une belle vague.
Et les vagues qui tapent comme ça contre l'estacade, c'est impressionnant.
C'est comme les éclairs dans le ciel, hein. Ça donne toujours cette impression d'énergie vitale.
C'est vrai que c'est ressourçant, même beaucoup de vent comme ça, c'est mieux que quand c'est calme. Hein.
C'est ressourçant, effectivement. Cela mouille, je confirme, car une petite vague est venue me voir à l'instant. Il y avait du soleil jusqu'à présent, mais c'est terminé. Le ciel s'obscurcit. Un grain arrive, autrement dit, la pluie arrive. Et le vent se renforce au fil des minutes. En tout cas, le spectacle est majestueux. De là où je suis, on voit l'ensemble du Remblai de Saint-Jean-de-Mont.
Eh bien, profitez et puis accrochez-vous, hein, Nicolas Bobby. Soyez prudents. Notez qu'à 19h, on sera en Méditerranée. C'est une information RTL qu'on vous donnait dès le début de l'après-midi et elle illustre peut-être l'étape franchie ces derniers jours dans le combat contre la réforme des retraites. Ce passage à la violence auquel on a assisté depuis jeudi soir en marge des manifestations ou des rassemblements contre cette réforme. 6 rames de TGV ont en effet été dégradées dans un technicentre de la SNCF pour être rendues inutilisables et forcément, Maxime Lévy, des cheminots sont soupçonnés.
Oui, alors pour le moment, aucune certitude sur les auteurs de ces dégradations, mais il est vrai que parmi les hypothèses sur la table, il pourrait s'agir de personnel gréviste. C'est un des responsables en charge du technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine au sud de Paris qui s'en est aperçu hier matin. Il remarque que les pantographes, ce qui relie le train aux lignes électriques, sont anormalement baissés, mais surtout que les essieux de 6 rames de TGV ont été partiellement démontés. Il manque des pièces rendant les trains inutilisables. Le plus troublant est que ces dégradations ont eu lieu dans une zone ultra sécurisée, interdite au public et qui nécessite un badge d'accès, ce qui conforte la thèse d'un acte commis par une personne habilitée à pénétrer dans ce technicentre. La SNCF a déposé plainte dans la foulée. L'enquête ne va pas être simple. Le site est dépourvu de caméras de surveillance.
Information Maxime Lévy. Alors, direction les Deux-Sèvres maintenant, au lendemain des violences qui ont émaillé le rassemblement contre la méga bassine de Sainte-Soline. Bonsoir Clara Echari.
Bonsoir Vincent.
Alors précisément, vous êtes à Mel, hein, c'est à une vingtaine de kilomètres de Sainte-Soline. On va tout d'abord revenir sur les événements d'hier, hein, ces événements extrêmement violents. Est-ce que vous avez un bilan pour les blessés ?
Oui, le dernier bilan du parquet fait état de 29 gendarmes blessés, 2 en urgence absolue, respectivement pour une blessure à l'aine et un traumatisme respiratoire. Les 27 autres blessés ont notamment subi des brûlures, des traumatismes sonores ou liés à des jets de projectiles. 2 journalistes aussi ont été blessés à la tête et des brûlures. Du côté des manifestants, les organisateurs eux-mêmes parlent de 200 blessés en tout, dont 3 en urgence absolue, chiffre confirmé par le parquet, qui indique que le pronostic vital de l'une de ces personnes est toujours engagé. Un homme de 30 ans avec un traumatisme crânien, une enquête a été ouverte.
Donc un bilan particulièrement lourd, on vous a entendu. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des interpellations ?
Alors, pas d'interpellation pour aujourd'hui. 15 interpellations ont été faites préventivement vendredi, mais aucune depuis la manifestation.
Alors, vous avez passé ce dimanche, les violences, elles ont été, parce que vous étiez sur place hein, hier, elles ont été particulièrement spectaculaires, hein, vous l'avez constaté.
Oui, nous étions sur place avec Mathieu Lopineau hier et ce qu'on a vu, c'est une pluie de grenades lacrymogènes et de grenades de désencerclement lancées sur les manifestants depuis le mur de camions de gendarmerie formé autour de la bassine, mais aussi depuis des quads qui ont encerclé les manifestants. 4000 grenades utilisées en tout, a dit d'ailleurs Gérald Darmanin. Mais de l'autre côté, les gendarmes ont eu la même vision puisque les équipes de BFM ont obtenu une vidéo tournée depuis l'intérieur d'un camion de gendarmerie. Et là aussi, c'est une pluie de projectiles en tout genre qui s'abat sur le véhicule. Allez, Des projectiles difficilement identifiables, mais en très grand nombre. Et avec ce bruit, vous pouvez sans mal comprendre les traumatismes sonores des gendarmes, mais aussi de certains manifestants.
Alors, vous avez passé cette journée de dimanche, Clara Echari, à Mel, donc à une vingtaine de kilomètres de Sainte-Soline, avec des opposants aux bassines. Et on peut dire que là, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est très saisissant. Le contraste avec ce que vous avez vécu hier est frappant.
Oui, un contraste vraiment impressionnant, puisque aujourd'hui c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus festif. Les organisateurs voulaient en fait se recentrer sur ce qui leur importait vraiment, à savoir le combat autour de l'eau. Il y avait donc des débats, des concerts, des tables rondes. Objectif aussi, expliquer à ceux qui ne maîtrisaient pas le sujet pourquoi les militants sont contre les bassines et convaincre comme ça le plus grand nombre. Écoutez Nicolas Giraud, le porte-parole de la Confédération Paysanne.
On est toujours dans une ville différente qui nous accueille. On a aussi les habitants de la commune qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça. On a les gens de territoires de plus en plus différents, de plus en plus larges, qui viennent sur ces manifestations. Et c'est cette logique-là qui va nous permettre d'élargir la base de la lutte et de faire que, petit à petit, quand on touche de plus en plus de personnes, on l'a vu au fur et à mesure des manifestations, on a commencé à 400 manifestants à la première manifestation en novembre 2021. On est hier 30 000 qui demandent un autre partage de l'eau, une autre préservation de l'eau, et il faut que ça continue à gonfler.
Et là, petit à petit, les manifestants commencent à s'en aller et à regagner leurs différents départements.
Merci Clara Echari, envoyée spéciale d'RTL dans les Deux-Sèvres. On marque une pause, hein, et puis dans un instant, on revient sur ces violences de Sainte-Soline avec la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, qui était sur place aux côtés des manifestants hier, malgré l'interdiction de ce rassemblement. A tout de suite.
RTL dimanche soir. À la mer, à la montagne, dans la restauration,
deux bavettes, un café, un tiramisu,
le sport ou encore la culture, il y a forcément un métier du tourisme qui vous correspond. La semaine des métiers du tourisme, c'est du 3 au 9 avril 2023. Visite d'entreprise, journée portes ouvertes, job dating, conférences, animations. Retrouvez tous les événements organisés dans votre région en vous rendant sur monemploitourisme.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Bonjour, c'est Ophélie Meunier. Je vous retrouve pour un zone interdite exceptionnelle qui retrace la grande évolution de la place des femmes dans notre société. Couple, famille, travail, comment la vie des Françaises s'est-elle à ce point transformée? Notre enquête lève le voile sur 50 ans de révolution dans les rapports hommes-femmes. C'est un inédit zone interdite et c'est ce soir à 21h10 sur M6.
Tout savoir sur l'avance immédiate de crédit d'impôt avec Acadomia. Avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, les cours particuliers à domicile proposés par Acadomia n'ont jamais été aussi accessibles. Comment témoigne Benoît, le papa de Léo ?
Eh bien, d'abord, on a pris un étudiant pour aider Léo en maths. C'était pas cher, mais on n'a pas constaté de progrès. Alors, on a choisi Acadomia pour un accompagnement de qualité. Et ça marche, pour le même prix en plus.
Alors Philippe Colléon, vous êtes président d'Acadomia. Les familles font parfois le choix budgétaire de prendre des intervenants non déclarés et pas toujours qualifiés ?
Oui, c'est vrai, mais grâce à l'avance immédiate de crédit d'impôt, les familles peuvent maintenant accéder beaucoup plus facilement à la qualité de nos cours et de nos enseignants.
Alors comment fonctionne cette aide ?
Bien, c'est très simple. Dès cette rentrée, vous ne payez plus que 50% du prix et l'État prend en charge l'autre moitié. En plus, Acadomia s'occupe de tout et c'est sans engagement.
Merci. Et pour plus d'infos, c'est sur acadomia.fr.
Crédit d'impôt de 50% dans les conditions posées par l'article 199 sexe des siestes du CGI.
RTL dimanche soir. Avec Vincent Parisot.
Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, était à la mi-journée l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Alors, elle a bien sûr évidemment longuement commenté les scènes de violence d'hier après-midi à Sainte-Soline lors de cette manifestation contre les méga-bassines. Manifestation, elle l'a rappelé, interdite par la préfecture des Deux-Sèvres.
Le problème, c'est que dans les manifestations, il y a des individus ultra, des black blocs, pour venir faire de la guérilla, pour s'attaquer à nos institutions, pour s'attaquer à nos forces de l'ordre. La République est attaquée par ce type d'individus. Cette manifestation était interdite par la préfecture, et donc ces personnes-là, dont des élus, bravent l'interdiction. Et par ailleurs, ces individus s'attaquent à des hôtels de ville. On a vu les images de la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux, mais ils s'attaquent également à des commissariats, à des préfectures, à tous les lieux qui symbolisent notre République. Et cela me gêne, oui, que des élus bravent la loi, l'enfreignent, comme si, parce qu'on était élus, on était au-dessus des lois. Et voilà. On n'est pas au-dessus des lois.
Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, c'était ce midi au grand jury. On y reviendra après 18h30. Mais on retient donc ces accusations sur le thème, vous l'avez entendu, la République est attaquée. Accusation qui vise notamment les élus présents hier à Sainte-Soline, malgré cette interdiction. Bonsoir Marine Tondelier.
Bonsoir.
Secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, merci d'être en direct sur RTL ce soir. Vous étiez hier à Sainte-Soline. Vous êtes donc visé par cette accusation de la présidente de l'Assemblée. Pourquoi aller dans une manifestation interdite? Vous n'êtes pas au-dessus des lois, en effet.
Ça s'appelle la désobéissance civile et vous savez, au gouvernement, il y a aussi beaucoup de désobéissants. Ils désobéissent sur les normes, sur la qualité de l'air, ils désobéissent sur l'inaction climatique, ils sont condamnés par la justice pour cela, ils désobéissent sur les normes qu'ils se fixent eux-mêmes, sur la baisse de l'utilisation de pesticides, sur le bio dans les cantines, sur l'installation d'énergie renouvelable. Ils désobéissent tous les jours au gouvernement. Oui. La différence, c'est que nous, nous le faisons pour l'avenir de nos enfants.
Oui, mais la différence aussi, c'est que vous êtes élus.
Ils le sont aussi, il me semble, au gouvernement.
Oui, oui, oui. Non, mais là, je parlais par rapport aux manifestants qui vont éventuellement braver cette interdiction. Vous êtes élu. Est-ce que ça ne vous donne pas une responsabilité?
Donc, vous posez là une deuxième question.
Une responsabilité plus
vous posez
importante.
Là une... Oui. Oui, vous posez une deuxième question. On est en 2023 et on ne sait pas garantir aux enfants qui naîtront cette année que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans. Si on prend le sujet particulier de l'eau, dont on était venu parler à Sainte-Soline, la guerre de l'eau, elle a déjà commencé autour des usages de l'eau, autour du partage de l'eau. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est injuste? Est-ce qu'il est concerté ou pas? Est-ce qu'il est contre-productif ou pas? Dans le sujet des bassines, les réponses à ces trois questions sont problématiques et donc évidemment qu'il faut en parler parce qu'on va avoir de graves tensions cet été et tous les étés qui suivront, tous les scientifiques nous le disent. Et donc, être présent dans ces mobilisations, je vais vous dire, c'est notre responsabilité et ce serait une faute politique que de ne pas l'être. J'ajoute par ailleurs qu'après les annonces testostéronées de notre ministre de l'Intérieur, jour après jour, depuis quelques semaines, pour renforcer en permanence le dispositif force de l'ordre, policiers, gendarmes, CRS, plus de 3200 personnes mobilisées finalement. En fait, tout cela, ça revenait à donner rendez-vous très clairement à fixer un rendez-vous aux personnes qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre. Pourquoi tout ce dispositif a été déployé? On parle de 5 millions d'euros du coût de l'opération de maintien de l'ordre pour protéger un trou. Parce que la bassine de Sainte-Soline n'est pas encore construite, ils ont juste fait le trou, il n'y a pas la bâche, etc. Et donc, 3200 personnes ont été envoyées aux premières lignes, ont été envoyées au charbon pour protéger un trou. Ça n'a aucun sens, ni du point de vue des finances publiques, ni du point de vue du maintien de l'ordre, puisque je peux vous dire que s'ils étaient restés à l'hôtel, il n'y aurait eu aucune altercation, aucun affrontement et aucune dégradation, puisqu'il n'y avait rien à dégrader.
Par ailleurs, vous dénoncez...
On est en droit de se poser la question.
Oui, on va y revenir, mais vous dénoncez aussi l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des blessés et des équipes de secours notamment. D'ailleurs, dénonciation qui est relayée par la Ligue des droits de l'homme. Vous l'avez constaté.
Exactement.
Ça.
Alors moi, je vais vous dire, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vu moi. Je ne suis ni spécialiste de l'organisation sanitaire, ni de l'organisation des forces de l'ordre. Et donc, à ce stade, je me contente de poser des questions en espérant qu'une enquête indépendante soit menée à froid pour qu'on reprécise bien les faits. Moi, j'ai personnellement passé l'après-midi à remettre minute par minute ce que j'ai vécu, les appels passés, les textes au fait à la préfète, à la gendarmerie, les échanges avec le SAMU, parce qu'on était avec plusieurs blessés et on a vécu l'impossibilité pendant plusieurs heures de les évacuer.
Ça veut dire que les forces de l'ordre,
il y avait une fille dans un état très grave qui fait partie des trois, qui fait partie des trois personnes en urgence vitale. Et on a passé l'après-midi avec les parlementaires écologistes avec elle. Voilà.
Est-ce que vous
et donc
pouvez
moi, je veux bien comprendre que c'était compliqué d'évacuer.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous confirmer...
Vous voulez que je vous confirme quelque chose
que, oui. Nous confirmer que vous avez essayé ou que vous l'avez peut-être réussi d'ailleurs d'appeler Elisabeth Borne pour lui expliquer la situation justement.
J'ai eu la personne en charge des affaires intérieures auprès de la Première ministre parce qu'on était déjà en lien sur, vous savez, l'affaire des écoutes que le Canard Enchaîné a révélé la semaine dernière en disant que beaucoup d'activistes anti-bassines étaient sur écoute et une personne des renseignements généraux dans cet article se vantait de dire ça nous amène même à écouter des élus, même si on n'a pas le droit, on le fait quand même. Et donc j'ai saisi la Première ministre par courrier et je dois m'entretenir avec ses équipes la semaine prochaine pour faire la lumière sur là-dessus. Moi, ce qui m'étonne énormément, c'est qu'on avait prévu 3200 membres des forces de l'ordre autour de cette bassine ou aux alentours. Quand on prévoit ça, on doit bien s'imaginer que potentiellement il y aura des blessés. Je constate que le plan d'évacuation sanitaire, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en avait pas, évidemment qu'il devait y en avoir un, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas satisfaisant, et la personne qui est dans le coma aujourd'hui, la LDH, démontre texto, appel, preuve à l'appui, que ça a pris plus de 3h40 pour pouvoir l'évacuer. Moi, la jeune fille avec qui nous étions, c'est à peu près la même chose. Heureusement, son pronostic vital ne serait plus engagé à l'heure actuelle, mais elle a été dans des souffrances atroces. Elle avait eu un tir de grenade à tir tendu dans la tête. Elle avait un enfoncement orbital. Elle avait la mâchoire arrachée. Elle était entreposée avec d'autres blessés sur un talus loin des affrontements. C'est là où les élus se sont mis pour protéger cette infirmerie improvisée. Et quand les quads de la police sont arrivés, ce qui a fait peur à tout le monde, on nous a demandé de nous mettre devant avec les écharpes bien apparentes, loin des heurts. On ne représentait aucune...
Ah, une difficulté de liaison. Vous êtes encore là? Vous êtes toujours avec nous?
On jetait des grenades qui ont explosé au sol et donc près des victimes qui étaient allongées.
Oui. Ah. Non, mais c'est bon, on vous a retrouvé, Marie.
Oui, je suis là.
Une dernière question. Ces scènes de violence que vous venez de nous décrire, ces difficultés, elles ont rendu impossible, évidemment, toute discussion sur le fond. Et on se demande à quoi ça a servi, cette manifestation, finalement, à l'arrivée.
Mais je pense que Gérald Darmanin a obtenu ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire des images qui permettent de détourner l'attention des débats de fond. Votre reporter sur place disait par contre tout à l'heure que toute la journée aujourd'hui, des conférences avaient lieu, des films, des débats, de la musique, et que les débats sur le fond ont pu reprendre aujourd'hui.
Et voilà. C'est ce qu'on
Mais c'était le cas aussi avant-hier, j'y étais vendredi, c'était le cas hier en partie, et ça a repris.
Merci voilà. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, merci d'avoir été avec nous. Alors, on l'a compris, il y a eu une pause dans les manifestations contre la réforme des retraites pendant ce week-end. À Lille, les rassemblements sont quotidiens depuis une dizaine de jours. Et là, il y en a un qui est en train de commencer ce soir devant la préfecture. Franck Hanson, vous y êtes ?
Oui, tout à fait. Malgré la pluie et la grisaille, pas question de se démobiliser. Nouveau rassemblement donc place de la République ici face à la préfecture du Nord. Quelques dizaines de manifestants encore un peu timides pour l'instant. Quelques jeunes notamment, des militants habituels qui sont présents ici comme chaque soir depuis une dizaine de jours maintenant pour faire pression encore sur ce gouvernement contre cette réforme. Ils étaient plus de 500 hier soir pour un cortège qui n'a pas connu cette fois d'actes de violence. Comme d'autres événements, forte présence policière malgré tout déployée avec quelques dizaines de véhicules qui sont mobilisés ici. Et pour Bertrand, parmi ces manifestants, Bertrand donc est enseignant à Tourcoing et c'est une présence symbolique pour lui, même si la loi est passée.
Il ne faut pas de temps mort, il faut être là, protester contre ce gouvernement. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord, il faut être nombreux. Alors, les syndicats disent jusqu'au retrait, jusqu'au retrait. Quoi. La loi est passée déjà de quelle façon hein, ça déplaît énormément. Et il y a un exemple, en 2006, le CPE, la loi a été votée, ils l'ont retirée. Quoi. Si cette loi elle passe, il y en aura d'autres et aussi dégueulasses. Quoi. Demain, il faut revenir et mardi, il faut que ce soit énorme, il faut continuer. Quoi.
Et pour ce dimanche soir, donc pas de cortège prévu dans la capitale des Flandres, selon les organisateurs, qui veulent s'en tenir à un simple rassemblement qui reste calme pour l'instant. Les syndicats ont en tout cas déclaré des manifestations jusqu'à mardi, au moins, pour la 10e journée de mobilisation interprofessionnelle.
Merci Franck Hanson à Lille devant la préfecture, évidemment. Donc mardi, la journée, nouvelle journée d'action, nouvelle perturbation dans les transports. Bonsoir Christophe Bourou. On a les prévisions pour la SNCF, par exemple.
Et déjà demain, attendez-vous à un trafic perturbé pour les grandes lignes. La SNCF prévoit ainsi 4 TGV sur 5 en moyenne, 2 TER sur 3 et 2 intercités sur 3. Notez qu'aucun intercité de nuit ne circulera. Pour la journée de mardi, la SNCF n'a pas encore communiqué de prévision, mais anticipe déjà un trafic encore plus perturbé et recommande aux voyageurs de reporter ou d'annuler leurs déplacements.
D'autres perturbations à la RATP dans les airs?
Et oui, pour mardi, la RATP s'attend à un trafic, je cite, difficile avec pour le métro en moyenne 1 train sur 2 comme pour les RER A et B et 2/3 des trains sur les lignes C et D. En revanche, circulation normale pour les bus et tramways. Dans les airs, trafic là aussi avec pas mal de perturbations à prévoir. Dès demain, à Orly et Marseille, 20% des vols seront affectés et mardi, 20% des vols seront annulés également dans ces deux aéroports, mais aussi à Toulouse et Bordeaux. Un mouvement qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à mercredi.
Et pour l'approvisionnement... Mercredi, voilà, j'ai bien compris. Et pour les approvisionnements carburant.
Alors là, du côté des stations-service, 15% sont aujourd'hui en rupture, au moins d'un carburant, et 7% sont à sec. Certaines régions sont particulièrement touchées, comme la Loire-Atlantique, avec une station sur deux touchée, 4 sur 10 en Normandie, Bretagne, Occitanie ou encore en PACA. En revanche, sur autoroute, notamment sur le réseau Vinci, 98% des stations distribuent ce soir du carburant sans difficulté.
Merci Christophe Bourou. Effectivement, certaines stations sont déjà à sec, notamment dans le sud-est. Et vous l'avez constaté, Hugo Hamelin, entre Nîmes et Montpellier, précisément à Lunel. Hein.
Absolument, c'est un défilé non-stop à la pompe ce dimanche après-midi. Je me trouve dans la zone commerciale de Lunel où 3 des 4 stations-service sont en rupture totale de carburant. Alors contrairement aux gares, le département voisin a lui aussi touché. Ici, il n'y a pas d'interdiction, de restriction pour venir remplir par exemple des jerrycans, ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Habib travaille dans le BTP.
C'est vrai que c'est un peu souciant par moment. Quand on voit que les prix ne sont pas affichés, que les banderoles sont tirées, qu'on ne peut pas se servir. De plus en plus, on voit que ça ferme et ça fait un peu flipper, quoi. Donc je vais remplir aussi des bidons pour les machines que j'utilise. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, moi j'ai besoin de les remplir, quoi, pour les machines. Je ne peux pas amener la pelle de 20 tonnes ici pour le remplir, quoi.
On essaye de trouver de l'essence. Par exemple, regardez lui avec les jerrycans, là. Il n'est pas égoïste, lui. Il ne peut pas en laisser à tout le monde. Hein.
Plusieurs stations-service du secteur ont tout de même mis en place un montant maximum, généralement 50 euros par véhicule, pour tenter de stopper la frénésie de certains automobilistes.
Il ne faut pas se précipiter, comme tout le monde fait. Il faut y aller au fur et à mesure. Quand on a besoin, on va se servir. Et on sert comme d'habitude 20, 10, 30 euros, mais pas le plein parce que les gens, ils ont peur de ne pas en avoir le lendemain. C'est ça qui provoque la pénurie.
Ici, dans l'Hérault, 27% des stations-service restent en difficulté ce dimanche.
Reportage Hugo Hamelin à Lunel, donc sur la route entre Nîmes et Montpellier. On marque une courte pause. Dans un instant, on revient, on enchaîne. Donc, pas de courte pause, effectivement. Merci de cette information. Alors, autre information, c'est votre ticket de caisse en papier. Il fait de la résistance. Les magasins ne devaient plus les imprimer systématiquement à partir du 1er avril, c'est-à-dire samedi prochain. Mais voilà, la mesure a de nouveau été repoussée en raison notamment de l'inflation. On y reviendra à 19h. À l'étranger, aux États-Unis, Joe Biden ordonne le déploiement de l'aide fédérale dans le Mississippi. Je vous rappelle que des tornades meurtrières ont fait au moins 25 morts et les dégâts sont énormes. Et puis, l'Ukraine accuse la Russie de prendre en otage nucléaire la Biélorussie, puisque hier, Vladimir Poutine a annoncé le déploiement d'armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié Bélarus, des armes installées aux frontières de l'Union européenne. La rhétorique nucléaire de la Russie est dangereuse et irresponsable, estime ce soir l'OTAN. Et puis le sport, avec l'équipe de football qui remet ça à Dublin demain soir, 3 jours après leur belle victoire face aux Pays-Bas, 4-0 pour le premier match des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus vont affronter l'Irlande. Alors évidemment, une deuxième victoire permettrait d'envisager très sereinement la qualification, mais Kylian Mbappé veut rester prudent pour demain.
C'était très positif, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il ne faut pas non plus s'enflammer, mais il ne faut pas non plus négliger ce qui s'est passé vendredi. Voilà, on a bien joué, on a bien entamé nos qualifications pour 7 euros et on va continuer demain parce que voilà, c'est pas parce qu'on a battu les Pays-Bas qu'on est qualifié. Il y a un match très important demain et qui va être beaucoup plus compliqué que les gens peuvent penser. On a tendance à penser de réputation que c'est une équipe qui va être très très rugueuse, mais c'est une équipe qui joue au football, donc il faut faire très attention à comment on va aborder le match demain. Il ne faut vraiment pas penser que voilà, on va avoir le ballon tranquillement et on va pouvoir déployer notre jeu et attendre que ça se passe en attendant que la différence se fasse. Il va vraiment falloir qu'on soit offensif. Ça va être un bon match de football demain et j'espère qu'on sortira victorieux de cette bataille.
Voilà, Kylian Mbappé au micro RTL de Nicolas Georgerot. Et puis le cyclisme avec le Français Christophe Laporte qui a remporté cet après-midi la classique Gant-Wevelgem. Il est arrivé quasiment main dans la main avec le leader de son équipe, le Belge Wout van Aert, qui l'a laissé s'imposer. En tout cas, c'est une première en 26 ans. On va parler cyclisme et Tour de France tout à l'heure à 19h15, puisqu'Isabelle Langer recevra le patron du Tour, Christian Prudhomme. Courte pause, dans un instant, le grand jury, le MAG.
RTL dimanche soir. Tout savoir sur les avantages des surgelés Picard. Pour aider les Français à faire des économies, Picard garantit toute l'année la meilleure qualité au prix le plus juste, en proposant notamment 300 produits à moins de 3 euros ou encore un programme de fidélité, Picard et nous, qui donne accès à 50 produits en promo chaque mois. Sans oublier que les surgelés longue conservation et portionnables sont une vraie solution contre le gaspillage alimentaire et donc plus économique. Plus d'infos sur picard.fr.
Malika dirige une petite entreprise de BTP. Alors, quand elle découvre l'offre Open Pro regroupant
la ligne fixe internet et jusqu'à 10 lignes mobiles,
elle se dit
c'est du solide.
Et
avec moins 20% dès la 6e ligne mobile,
elle se dit
c'est du béton.
Avec Open Pro d'Orange, profitez d'une offre complète et de moins 20% par mois sur tout forfait mobile dès la 6e ligne souscrite.
Orange.
Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Remise mensuelle sur le montant de l'abonnement des forfaits mobiles Open Pro. Conditions et détails sur orangepro.fr.
RTL dimanche soir.
Grand jury, le mag avec Vincent Parisseau.
C'est votre rendez-vous politique du dimanche soir qui est ancré dans notre vie quotidienne au cœur d'une séquence de grandes tensions politiques et sociales marquée par ces scènes de violence de plus en plus fréquentes et radicales après le 49-3, le rejet de la motion de censure. Et ce week-end, dans un tout autre contexte, hein, sur un autre terrain à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres contre les méga-bassines. Alors, au menu ce soir, le grand jury de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, et son débrief avec ses intervieweurs, l'isolement élyséen qui inquiète dans la majorité, la mobilisation contre la réforme des retraites, mais cette fois en version bon enfant à vélo. Et puis, on va revenir sur l'annonce de l'interdiction de TikTok et des applications récréatives sur les téléphones professionnels des agents de la fonction publique d'État. Pour quelles raisons? Quels sont les risques? On en parlera avec un spécialiste, Damien Bancal.
Grand jury, le mag, Vincent Parisseau.
La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, était donc l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LC la mi-journée. Il a bien sûr beaucoup été question du contexte de violence de ces derniers jours. Après le 49-3 et le rejet de la motion de censure, violence verbale, menace sur les élus, violence physique contre les forces de l'ordre, contre la réforme des retraites ou comme hier à Sainte-Soline contre les méga-bassines.
La République est attaquée par ce type d'individus. Cette manifestation était interdite par la préfecture et donc ces personnes-là, dont des élus, bravent l'interdiction et viennent pour mener une bataille rangée. Et par ailleurs, ces individus s'attaquent à des hôtels de ville. On a vu tous les images de la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux, mais ils s'attaquent également à des commissariats, à des préfectures, à tous les lieux qui symbolisent l'ordre, l'institution et donc notre République. Et cela me gêne, oui, que des élus bravent la loi comme si, parce qu'on était élu, on était au-dessus des lois. On n'est pas au-dessus des lois. On voit qu'il y a un déchaînement de violence contre les élus d'une façon générale. Moi-même, j'ai à nouveau fait partie ces derniers jours aussi de lettres de menaces absolument abominables. Je vous la montre, ça commence très aimablement par « Salut la grosse truie juive, 5 bâtards youpins, tu nous files du boulot ». J'ai deux pages comme ça. Jamais. Je n'aurais imaginé qu'en m'engageant en politique, j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme, la violence verbale, la violence physique à travers nos permanences. Il faut absolument que nous fassions très attention.
Édouard Philippe a salué hier la très grande responsabilité des syndicats. Est-ce que vous le faites aussi? Ou alors est-ce qu'ils n'ont pas proposé de compromis, comme le disait Emmanuel Macron mercredi?
Je salue l'attitude des syndicats, mais je leur dis également, il faut revenir à la table des discussions. C'est important pour nous, collectivement. Travaillons sur d'autres sujets, sur l'égalité salariale, sur la pénibilité, sur les reconversions. Il y a tant à faire.
La visite du roi Charles III a donc été annulée pour la semaine prochaine. Est-ce que vous dites que c'était la meilleure des décisions dans ce contexte?
Il était plus prudent et plus sage, plus prudent également aussi en termes de maintien de l'ordre. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Sa venue aurait été exploitée par ces mêmes individus pour continuer à semer le désordre et le chaos.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et on y revient avec ses intervieweurs. Jim Jarassé du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Damien Fleureau pour TF1 LCI, bonsoir.
Bonsoir.
Et pour RTL, évidemment Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr,
bonsoir.
Bonsoir. Et Olivier Bosse pour RTL qui a mené les débats. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
En écoutant l'émission, on se dit finalement que Yaël Braun-Pivet ne dit pas vraiment autre chose qu'Emmanuel Macron, mais elle le dit vraiment différemment et très différemment de la manière dont il l'a dit jeudi dernier.
Elle est effectivement alignée sur des objectifs qui ont été donnés par le président de la République, celui de remettre autour de la table des syndicats pour parler de tout sauf des 64 ans, pour parler du travail. Elle est en ligne effectivement pour que le gouvernement trouve les moyens de gouverner par la suite à l'Assemblée nationale avec des majorités. Mais si on écoute bien dans le détail quand même, vis-à-vis d'Elisabeth Borne, elle se montre quand même un peu critique et surtout assez sceptique sur la recherche d'une majorité par la Première Ministre, d'une nouvelle majorité. Donc c'est un soutien, mais pas la Première Ministre.
Damien Fleurot.
On sent bien dans le poids du corps que Yael Braun-Pivet aurait peut-être préféré que l'exécutif, Olivier Dussopt, Elisabeth Borne, passe plus de temps à discuter avec Laurent Berger, en clair, c'est ça. Et c'est une petite musique qui remonte au sein de la majorité, je trouve.
Jim Jarassé.
Yael Braun-Pivet, elle a une position tout à fait particulière en Macronie. La première chose, c'est qu'elle vient du Parti Socialiste. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, elle peut avoir une approche de méthode totalement différente vis-à-vis des macronistes qui viennent de la droite ou des libéraux qui viennent de la société civile. Donc, elle est plutôt dans une vision de la démocratie sociale, du lien avec les syndicats qui doit être préservé. Donc, on sait, on sent qu'elle est en contact encore avec notamment Laurent Berger. Et puis, Yael Braun-Pivet, c'est aussi la présidente de l'Assemblée. Donc, elle a une position assez consensuelle. Elle se doit de représenter l'intégralité du spectre politique des députés, ce qui explique aussi peut-être une certaine forme de réserve et de prudence qu'on observe chez elle par rapport aux membres de l'exécutif qui, eux, défendent avant tout la mission du gouvernement et le passage...
J'allais vous dire, Olivier Véran aussi vient de la gauche, finalement, oui, et il n'a pas tout à fait le même discours.
Exactement.
Yael Braun-Pivet a vraiment eu des propos très pondérés tout au long de l'émission. Par exemple, sur Sainte-Soline, elle ne s'avance pas autant que Gérald Darmanin. Donc évidemment, elle condamne les débordements, mais elle n'utilise pas le mot de violence policière. Elle n'utilise pas non plus de... elle ne nomme pas l'ultra-gauche comme peut le faire, par exemple, le ministre de l'Intérieur. Mais aussi, on sent que c'est pour se positionner parce qu'il y a un rebattement de cartes, de jeu de pouvoir qui est en train de se jouer et pourquoi pas un potentiel remaniement aussi à la clé.
Merci Marie-Pierre. Jim Jarassé, Damien Fleurot, Olivier Bost, on vous retrouve évidemment dans quelques minutes. On va parler de l'isolement du président. Inquiète-t-il ou non la majorité? Le chef de l'État, qui, je vous le rappelle, recevra demain midi Elisabeth Borne et les principaux cadres de la majorité pour une réunion, et cela à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Avant cela, eh bien, retour sur ce contexte et ce climat de violence depuis quelques jours. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
On peut dire qu'il y a une séquence qui a tout déclenché, c'est celle du 49-3.
Bah oui, effectivement, c'est à partir du 16 mars au soir, juste après l'annonce du 49-3 par Elisabeth Borne, que vont débuter des rassemblements spontanés ou en tout cas non déclarés. D'abord, place de la Concorde à Paris face à l'Assemblée, avec des feux de poubelle, des dégradations, des slogans parfois très virulents. Rien à voir avec les manifestations à l'appel de l'intersyndicale qui se déroulaient dans le calme.
Et ce climat de violence, donc, il dépasse désormais la question de la réforme des retraites.
Bah oui, il y a les menaces contre les élus. Elles ont pris de telles proportions que Renaissance, le parti macroniste, et c'est une information RTL, met en place dès demain une cellule d'aide pour ses élus et ses collaborateurs, une assistance juridique, matérielle et même psychologique, des conseils, des formations, des numéros dédiés pour les aider à faire face. Et puis, bah, y a les affrontements à Sainte-Soline hier dont on parlait tout à l'heure. Comme on le redoutait, ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous Sivin sous Notre-Dame-des-Landes. Mais dans le contexte, on a l'impression qu'il n'y a plus de consentement des citoyens à l'ordre public, mais un rapport de force violent entre États et contestataires.
Et à cela vient s'ajouter la polémique sur l'usage de la force, sur les techniques de maintien de l'ordre.
Bah oui, au motif qu'une manifestation non déclarée est illégale, les forces de l'ordre ont procédé à des interpellations massives, mais le nombre de gardes à vue apparaît finalement disproportionné au vu des poursuites effectives, car le droit de manifester est bel et bien un droit fondamental. Et puis à ces premières critiques se sont ajoutées ces scènes choquantes de dérapage policier jusqu'à cet enregistrement qui met en cause l'attitude des membres des Braves M, ces unités motorisées.
Et sur le plan politique, Marie-Bénédicte, on constate qu'en fait les deux camps s'accusent mutuellement d'être responsables de cette montée de violence.
Bah oui, côté majorité, on estime que la teneur des débats dans l'hémicycle a légitimé la violence des manifestants. Yael Braun-Pivet visait explicitement la France insoumise tout à l'heure au grand jury. Et à gauche, chez les écologistes, bah, on accuse le gouvernement de pousser certains manifestants à la violence par son intransigeance.
Et du coup, on s'interroge finalement qui peut profiter de cette montée de la violence dans le débat public?
Bah écoutez, si on raisonne en termes électoraux, le sondage IFOP fiducial pour le Journal du Dimanche publié aujourd'hui montre qu'en cas d'élection législative anticipée, le Rassemblement National progresserait nettement, il ferait jeu égal avec la NUPES, l'alliance macroniste elle arriverait 5 points derrière et perdrait une cinquantaine de sièges. Alors on voit mal comment se dégagerait une majorité dans ce cas de figure. En démocratie, quand certaines barrières du vivre ensemble sautent, personne n'est gagnant finalement.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Des scènes de violence qui brouillent forcément un peu la contestation de cette réforme des retraites en attendant la mobilisation de mardi. Alors, pas de grande manif ces deux derniers jours, mais quand même de petits rassemblements. On était à Lille hein, tout à l'heure devant la préfecture. Il y en a un peu partout des rassemblements. Il y en a eu ce week-end pour afficher son hostilité à cette réforme pourtant adoptée. Tiens, exemple. Hier matin, c'était à Gaillac, dans le Tarn, une manifestation à vélo et sur un rond-point pour ralentir la circulation, distribuer des tacts. Alors, ambiance bon enfant, en présence d'ailleurs de trois gendarmes. Depuis le 49-3 et l'interview du président, la colère des manifestants gaillacois se concentre désormais sur Emmanuel Macron, qu'il trouve déconnecté, sourd et provocateur. Reportage Valentin Larquier.
Ce n'est pas une manifestation comme les autres à Gaillac dans le Tarn samedi matin. C'est une vélorution, contraction des mots vélo et révolution. À bicyclette et en musique, une trentaine de manifestants poursuit la mobilisation contre la réforme des retraites. Guillaume fait le tour d'un rond-point de la ville pour ralentir la circulation.
Ça permet de filtrer, que les gens passent, sont pas bloqués indéfiniment. Donc on fait des sourires, etc. C'est une méthode soft qui fonctionne très bien, je pense. Et puis bien sûr, ça participe aussi du blocage général dans le pays et d'espérer qu'à la fin, c'est nous qui gagnons.
Et pour ça, à Gaillac, un collectif citoyen opposé à la réforme s'est créé fin février. Il organise des rassemblements, des actions. Samedi matin, les manifestants gaillacois ciblent directement le président de la République, surtout depuis l'utilisation de l'article 49.3, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Martine.
Le 49.3, moi, ça m'a donné plus envie de me mobiliser. C'est en partie pour ça que je suis sur le rond-point aujourd'hui. Dans le discours globalement qu'il a eu particulièrement mercredi, il reste sourd et aveugle à ce que les gens essaient de lui signifier dans le calme.
À quelques mètres d'une banderole blanche sur laquelle il est écrit « On crèvera pas au boulot », Jérémy, la trentaine, organisateur de cette mobilisation tarnaise, n'attend qu'une chose.
Macron, faut qu'il dégage, mais il dégagera pas de lui-même, donc faut qu'on le pousse à la dégager. Et pour le pousser à dégager, bah, soit ça va y aller par des trucs violents, et moi j'en ai pas spécialement envie, soit bah, c'est en touchant l'économie, en faisant grève notamment, parce que la grève générale, c'est le meilleur moyen.
Le jeune homme est en grève depuis le 7 mars et il se prépare pour la 10e journée de mobilisation mardi.
Reportage signé Valentin Larquier. Dans un instant, justement, cette question, l'isolement d'Emmanuel Macron inquiète-t-il la majorité? On va en parler avec nos débatteurs. Avant d'évoquer l'interdiction de tic-tac, entre autres, hein, sur les téléphones professionnels de tous les fonctionnaires français. A tout de suite.
Grand Jury, le MAG sur RTL.
Le meilleur moment pour manger, c'est quand on a faim. Pour boire, c'est quand on a soif. Pour parler, c'est quand on a quelque chose à dire. Et le meilleur moment pour faire un dépistage du cancer colorectal, c'est quand on n'a pas de raison d'y penser.
Et oui, c'est quand vous n'avez aucun symptôme qu'il faut vous dépister. Car détecté tôt, le cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10. Si vous avez plus de 50 ans, recevez votre test chez vous en le commandant sur e-cancer.fr ou consultez votre médecin ou un pharmacien participant. Vous vous en remercierez.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
RTL.
Gauthier. Ah, votre intérieur en a connu des anniversaires avec des invités cachés dans le salon, des miettes sur le tapis, des soirées qui finissent le lendemain. Alors pendant les jours anniversaires, Gauthier, faites un cadeau à votre intérieur. Il le mérite bien.
Du 15 mars au 9 avril, ce sont les jours anniversaires Gauthier. Jusqu'à 800 euros de remise sur une sélection de meubles dans votre magasin Gauthier et sur gauthier.fr.
Gauthier, créateur et fabricant français depuis 1960.
On a acheté notre maison des années 60, très sympa, mais très mal isolée. On voulait juste remplacer notre chaudière au fioul. Mais le conseiller France Rénov' nous a proposé la rénovation globale. Du coup, on a aussi isolé nos combles, nos murs et on a mis du double vitrage. Grâce aux aides financières, c'est très avantageux. Il nous a accompagnés pour les démarches, les aides, la sélection des artisans. C'était rassurant. Aujourd'hui, on a gagné en confort et on a réduit nos factures mensuelles.
France Rénov', la rénovation énergétique pour tous.
France Rénov' est le service public de la rénovation de l'habitat. Renseignements sur france-rénov.gouv.fr.
RTL dimanche soir.
Grand Jury, le MAG avec Vincent Parizeau.
Emmanuel Macron est-il trop isolé, sourd et aveugle à ce que lui dit le pays? Est-ce qu'il est en train d'inquiéter sa majorité? Eh bien, la question se pose aujourd'hui et des signes amènent à le penser. D'ailleurs, on a entendu au grand jury la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, expliquer, disons un peu entre les lignes, qu'elle avait dû s'employer à convaincre Emmanuel Macron de reporter la venue du roi Charles et de renoncer notamment à ce grand dîner à Versailles. Alors, on retrouve nos quatre débatteurs parce que c'est vrai qu'il y a une inquiétude aujourd'hui dans la majorité de voir par le président s'isoler ou rester sourd au conseil d'apaisement, Olivier Bost ?
Ça existe, bien sûr, parce que le côté vertical d'Emmanuel Macron continue de surprendre. Même ceux qui le connaissent bien et qui ont été élus en 2017 et qui ont été réélus en 2022, le côté effectivement isolé du président de la République, qui, quoi qu'il arrive, continue de penser qu'il a raison, est quelque chose qui perturbe beaucoup dans la majorité. Il y a un moment qui a été important. Emmanuel Macron a reçu les députés à l'Élysée au lendemain du 49-3, et certains avaient besoin d'être rassurés parce que c'est un moment difficile et compliqué, et d'autres attendaient un peu plus d'explications. Et ce moment-là, finalement, a été mal compris, sinon mal pris, par un certain nombre de députés de la majorité, et qui aujourd'hui encore se demandent si Emmanuel Macron n'est pas finalement déconnecté. Et après, chacun des membres de la majorité sont des élus qui subissent aussi des pressions, qui voient aussi leurs électeurs, qui leur font des reproches, et qui sont donc, eux, au contact, bien plus au contact d'Emmanuel Macron, et qui s'inquiètent de la situation.
Damien Fleurot.
Oui, j'ajouterais empêcher aussi un agenda contraint. On l'a vu avec le report de cette visite de Charles III. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un président de la République qui a sans doute des difficultés à organiser une rencontre avec les Français, comme il a pu le faire précédemment, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Et puis peut-être aussi un président, parfois, qui répond avec des manières où il pourrait faire des vagues dans sa propre famille politique.
Jim Jarassé, vous aussi, vous avez le sentiment que dans la majorité, cet isolement d'Emmanuel Macron commence à faire peur.
On n'a pas l'impression qu'il soit engagé dans une stratégie d'apaisement et d'écoute active. Et je pense que ça, les députés s'en inquiètent. Idem, lorsqu'il reçoit Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, tout était déjà fixé. Et ça, je pense que c'est la marque d'Emmanuel Macron. Il a du mal à changer. Ça fait des années, depuis le début de son arrivée au pouvoir, qu'il nous promet une nouvelle méthode. Et finalement, les événements se suivent, se ressemblent, mais la méthode ne bouge pas.
Jim Jarassé, Damien Fleurot, Marie-Pierre Haddad, Olivier Bost, merci beaucoup.
Grand Jury, Le Mag, Vincent Parisot.
Et l'invité du Grand Jury, Le Mag, c'est un spécialiste de la cybersécurité et de la délinquance numérique. Il est le fondateur du blog Zatas.com. Bonsoir Damien Bancal.
Bonsoir.
Alors vous l'avez compris, on change totalement de sujet. On parle de cette décision du gouvernement qui a interdit vendredi dernier l'installation et l'utilisation d'applications récréatives sur les téléphones professionnels des 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État. Alors cette décision, elle concerne notamment TikTok, mais aussi Twitter, Instagram et un certain nombre d'autres applications de jeux ou de streaming comme Netflix. Comment vous expliquez-vous cette interdiction, Damien Bancal ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, on va expliquer à des professionnels qu'un téléphone professionnel n'a pas pour mission d'avoir des outils certes récréatifs, mais qui pourraient être perturbants. Et donc du coup, on est dans une chaîne mondiale, très clairement, sur le fait d'interdire certaines applications. On va parler de TikTok, ça paraît évident, mais il y a eu aussi Twitter, Facebook et compagnie, qui pourraient potentiellement, dans les mains de professionnels, d'autant plus des professionnels de la politique, ou en tout cas qui gèrent notre pays, qui gèrent notre vie, qui pourraient potentiellement intercepter de l'information qui pourrait être considérée comme sensible, et donc, dans de mauvaises mains, véritablement devenir des outils nuisibles à notre encontre.
C'est TikTok qui pose le plus de problèmes, et les autres sont finalement des victimes collatérales ?
Ce qui est intéressant, c'est que TikTok aura été une espèce de gros pétard qui est en train de faire comprendre à tout le monde qu'une application, quelle qu'elle soit, soyons très clairs, aurait des potentialités de savoir où on est, géolocalisation, savoir ce qu'on dit, mais on l'écrit, connaître notre vie parce qu'on doit remplir certaines petites cases pour pouvoir s'inscrire à ce genre de site. Et TikTok a été aussi montré du doigt parce que ça a été fabriqué, mis en place par une entreprise chinoise avec de fortes possibilités, en tout cas, par le gouvernement chinois, de lire, de suivre. Donc ça, il ne faut pas non plus s'en voiler la face.
D'ailleurs, aux États-Unis, certains, il y a un vrai débat, réclament l'interdiction pure et simple de TikTok.
Oui, alors ça aussi, c'est toujours dans l'exagération de nos amis américains. Il suffit de voir un petit peu ce qui s'est passé au Congrès quand on a quand même un député qui demande si TikTok utilise le Wi-Fi de la maison pour pouvoir se balader. On poserait la même question à Twitter, Facebook ou à d'autres. Oui, il n'y a pas le choix. Donc du coup, ces outils-là peuvent inquiéter plus parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent véritablement en faire. Donc, par exemple, lire les informations. Rien que déjà celle que moi, l'utilisateur, je fournis. De mon nom à mon prénom, de mon âge, mon numéro de téléphone, voire potentiellement de ma profession. Donc voilà.
Ça ne pose pas de problème quand, quand ces sites sont américains, ça en pose quand ils sont chinois, c'est ça?
La question est excellente, effectivement. On a quand même oublié, il y a 2-3 ans, des employés de Twitter qui avaient été montrés du doigt et même mis à la porte parce qu'ils avaient aidé un pays du côté du Moyen-Orient à cybersurveiller en interne et bien des journalistes.
Alors, tous les fonctionnaires en France n'ont pas de téléphone professionnel, loin s'en faut. Mais cette interdiction, elle va pouvoir être contrôlée et donc éventuellement sanctionnée ou pas?
Oh bah c'est simple, il suffit de regarder tous nos élus, qu'ils soient de députés à sénateurs, en passant par président ou présidente de région, qui sont tous très fiers de nous dire « je me lance sur TikTok ». Oh bah voilà, je pense qu'il va y avoir un léger problème entre ce qui est dit et ce qui va être fait. D'autant plus qu'il va y avoir des dérogations. Alors ça, ça promet aussi.
Merci beaucoup Damien Bancal, spécialiste de la cybersécurité, fondateur du blog Zatas.com. Il est quasiment 7h-10. Eh bien écoutez, on va marquer une courte pause et puis dans un instant accueillir Alain Bougrain-Dubourg parce qu'il a une planète à refaire. À tout de suite.
Grand jury, le mag, Vincent Parisot.
Tous les matins à 6h45, Alba Ventura vous donne son coup de cœur ou son coup de gueule du jour.
L'éducation nationale, elle, doit être ferme et protéger ses élèves. C'est le harceleur qui quitte l'école et pas la victime. Une simple proposition de bon sens.
Et à 7h15, elle décrypte pour vous les derniers rebondissements politiques.
C'est vrai que le vrai danger pour le gouvernement, c'est que cette réforme soit dépouillée de sa substance. Bref, si au bout du compte, en plus d'être impopulaire, est inefficace, on se dira tout ça pour ça.
Avec RTL, prenez du recul sur l'actualité.
On refait la planète sur RTL avec la Fondation Engie. Fondation Engie, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète tous les dimanches soirs. C'est grâce à vous qu'on la refait cette planète. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg.
Bonsoir Vincent.
Et chaque semaine, on écoute un son de la nature qu'on doit tenter de découvrir. On va dire que c'est un peu particulier aujourd'hui.
Oui, parce que je ne vais pas vous donner un indice. Ouais. Ce n'est pas un son de la nature, c'est un chant. Et c'est un champion du monde qu'on va entendre, je vous propose.
C'est un coq. Un champion du monde. Ouais. Voilà, c'est pas le saut en longueur, c'est le chant en longueur. Voilà. Et je vous conseille surtout d'écouter et de bien tendre l'oreille sur ce qui va se passer à la fin.
Incroyable.
Voilà. Et là, on l'entend tomber.
Oui, mais il tombe de fatigue.
Il tombe de fatigue. Alors, voilà, c'est un coq, mais c'est un coq évidemment particulier. Si vous l'avez, vous n'avez rien gagné. Mais en revanche, nous, on en reparle à la fin de l'émission.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, ce soir, pour refaire la planète, on va en forêt. Mais alors, pas n'importe quelle forêt. Et pas avec n'importe qui. On est avec le créateur du radeau des cimes qui permet d'explorer la canopée. C'est Francis Allais, il est prof d'université, botaniste, spécialiste des zones tropicales. Et alors, à plus de 80 ans, oui. Ça forme la jeunesse, tout ça, il s'est lancé dans un grand projet, faire renaître une forêt primaire. Mais alors, dites-nous, c'est quoi une forêt primaire ?
Bien, en fait, c'est une forêt qui n'a été ni exploitée, ni défrichée par l'homme. Et si elle l'a été, eh bien, un temps suffisant s'est écoulé pour qu'elle ait retrouvé ses qualités primaires. Bon, Vincent, on estime quand même que 80% des forêts dites primaires ont disparu en un siècle. Ouais. Et chaque année, encore 15 millions d'hectares de forêts primaires tropicales sont déboisées.
D'où ce projet, donc un petit peu fou, espère la renaissance donc d'une surface non négligeable. On l'écoute.
70 000 hectares, parce que ça, c'est ce qu'il faut pour avoir toute la grande faune de l'ancienne forêt européenne. Au début, ça sera de la forêt secondaire. On n'intervient pas, on ne fait rien. On retire les dernières traces de l'être humain, les sentiers, les panneaux pédagogiques, les bancs et tous les trucs qui m'énervent à chaque fois. C'est très important de dire que ça ne sera pas mis sous cloche et protégé de l'être humain, pas du tout. Simplement, les visiteurs, on devra réguler leur nombre. Et puis, il faudra pas qu'ils aillent n'importe où. Ils vont marcher sur un petit caillebotis en bois. Il y a beaucoup de parcs nationaux dans le monde entier où on marche sur des caillebotis en bois.
Voilà, donc les panneaux, les bancs, la grande brise, tout ça, ça l'énerve.
Il a du caractère. Hein.
Et on doit marcher sur un caillebotis. Ouais. Ça, je dis, j'imagine qu'il faudra du temps hein, pour retrouver vraiment une forêt primaire.
Oui, mais alors là, Francis Allais n'a pas peur du temps qui passe. Mmh. Bon, alors il souligne qu'il ne sera pas à l'inauguration,
ouais, le sans moment doute, il sera pas invité.
Forêt, ouais. Mais il estime un délai à envisager.
Plusieurs siècles. C'est plus rapide dans les tropiques, on a déjà fait l'expérience. Bon, ici, les arbres, vous l'aurez sans doute remarqué, ils poussent 4 mois par an. C'est très peu. Le reste du temps, ils vivent, ils sont des arbres efficaces, mais ils ne grandissent plus. Alors forcément, avec ce rythme-là, il va falloir 7 siècles, 8 siècles, on ne sait pas exactement.
Ah oui, 7 ou 8 siècles. Ouais. Bon, en attendant cette échéance lointaine, donc réservée aux générations futures, dirons-nous, on continue de se pencher sur l'intelligence des plantes. Hein.
Oui, et il faut rappeler que c'est Francis Allais qui fut l'un des premiers à évoquer leur, on va dire, leur extrême sensibilité et leurs nombreuses potentialités. Aujourd'hui encore, il reste admiratif.
On est obligé de s'incliner devant les faits. Les plantes sont intelligentes. Et je me demande même souvent si elles ne sont pas plus intelligentes que nous. Parce qu'elles savent très bien régler leur démographie, qui est un problème dramatique pour l'être humain, mais personne ne s'en occupe. Et en plus, elles enrichissent sans arrêt leur environnement dans la partie aérienne et dans la partie souterraine, alors que nous, nous le dégueulassons.
Eh ben voilà.
Tout est dit.
Voilà, tout est dit, clairement, par Francis Allais, qui est celui qui a créé ce radeau des cimes, cette espèce de bateau volant qui permettait de, ouais. Qui permet d'ailleurs toujours
d'observer, canopée.
La canopée dans les forêts tropicales. Alors Alain, comme chaque dimanche soir, on met à mal une idée reçue. Tiens, aujourd'hui, celle qui veut que les villes sont plus touchées par la hausse des températures que les campagnes. C'est vrai ou c'est faux ?
Eh bien, c'est vrai. Et la différence de température avec le milieu rural est même estimée, elle varie entre 0,5 et 2 degrés supplémentaires, c'est considérable. Et les coupables, eh bien, ce sont les matériaux comme le béton ou le goudron qui absorbent et accumulent la chaleur.
Ouais, donc il fait plus chaud à la ville qu'à la campagne, ouais. C'est dû au béton. Si on peignait un peu les murs en blanc, les routes en blanc, les plafonds en blanc, ça serait pas mieux ?
Moi, je propose plutôt de planter.
Oui.
Planter,
eh ben, planter. Plantons, vous avez raison. Alain, un événement à ne pas manquer ?
Oui, je vous recommande de faire escale à Sainte-Claude dans le Jura pour le Festival Internature. 28 photographes exposeront leurs clichés avec 2 thèmes, les paysages et la faune. Il y aura de l'art animalier, des peintures, des sculptures, des conférences, des projections de films. Et c'est du 31 mars au 2 avril.
Alors Alain, on conclut déjà l'émission avec ce long chant que nous avons écouté au début, quand même. Pour le plaisir.
On se le réécoute.
On se le refait. C'est un petit peu long. Encore une fois, allez jusqu'au bout, vous allez vous régaler. Voilà. Et donc il tombe de fatigue. C'est incroyable. Bon, vaut mieux pas l'avoir à côté de chez soi, ce coq. Alors,
pour l'entendre, faut aller en Turquie.
Ah, hein, d'accord.
C'est une race particulière, Denizli, qui est originaire donc de Turquie et qui chante de cette manière. Je voudrais souligner que contrairement à ce qu'on croit, le coq ne chante pas que le matin pour nous réveiller. Ouais. Il peut chanter en cas d'alerte. Il peut chanter pour attirer ses femelles, etc. Quant aux femelles, les poules.
Ouais.
Elles ont 30 expressions sonores différentes.
Pas aussi étonnantes que celle du coq Denizli qu'on a découvert grâce à vous et qui va nous faire la soirée, je crois. Merci beaucoup, Alain Bougrain.
Bonsoir, Vincent.
On refait la planète sur RTL.
Et dans 2 minutes, il sera à 19h, l'heure d'accueillir Antoine Cavalierou pour son journal. À tout de suite.
RTL dimanche soir. Tout savoir sur l'avance immédiate de crédit d'impôt avec Acadomia. Avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, les cours particuliers à domicile Acadomia n'ont jamais été aussi accessibles, comme pour Benoît dont le fils avait besoin d'aide. Il a d'abord pris un étudiant non déclaré avant de choisir la qualité des enseignants Acadomia. Un choix ouvert à tous, rappelle Philippe Colléon, président d'Acadomia, grâce à l'avance immédiate de crédit d'impôt. Plus d'infos sur acadomia.fr.
Crédit d'impôt de 50% dans les conditions posées par l'article 199 sexdécies du CGI.
RTL.
Ah, le petit déj à l'hôtel. Cuillère en argent et verre à pied en cristal. C'est un jus d'orange royal.
Là, on comprend où on a mis le prix. Et sinon, personne ne s'est dit qu'un excellent café et des bons produits français, ça fait tout ?
Si, nous. Chez B&B Hotel, un bon petit déjeuner, c'est aussi simple que ça. Réservez votre chambre au meilleur prix sur hotelbb.com.
À la mer ? À la montagne ? Dans la restauration ?
Deux bavettes, un café, un tiramisu.
Le sport ? Ou encore la culture ? Il y a forcément un métier du tourisme qui vous correspond. La semaine des métiers du tourisme, c'est du 3 au 9 avril 2023. Visite d'entreprise, journée portes ouvertes, job dating, conférences, animations. Retrouvez tous les événements organisés dans votre région en vous rendant sur monemploitourisme.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Innovation des laboratoires dermatologiques Eucérine. Découvrez la nouvelle formule Hyaluron Filler plus Elasticity qui combat efficacement les signes avancés de l'âge. Ce soin global améliore l'élasticité de la peau, comble les rides et réduit les taches brunes grâce au thiamidol breveté par Eucérine. 92% des femmes le constatent, la peau paraît plus jeune dès 2 semaines. Hyaluron Filler plus Elasticity d'Eucérine, disponible en pharmacie et parapharmacie. Seulement par Eucérine. Test de satisfaction sur 120 femmes.
RTL.
Il est pile 19h. Et il est
18h,
à l'heure.
19h15, RTL dimanche soir.
Avec Vincent Parisot.
Je disais, il est à l'heure lui aussi, Antoine Cavalierou pour son journal. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Avec à la une un manifestant qui est toujours entre la vie et la mort, 24 heures après le chaos de Sainte-Soline.
Et deux premières interpellations ce soir suite aux violents affrontements dans les Deux-Sèvres entre manifestants anti-bassines et forces de l'ordre. Dans l'actualité également, la bataille des retraites qui continue sur le terrain de la grève. Un début de semaine qui s'annonce compliqué dans les transports. Grève également dans les raffineries. Vous êtes toujours nombreux à manquer d'essence dans le Grand Ouest et dans le Sud. Et puis, vous allez pouvoir continuer à scruter votre ticket de caisse. S'il devait disparaître dès la semaine prochaine, sa fin, de nouveau repoussé par le gouvernement, inflation oblige.
Et puis, après votre journal, ce sera On refait le sport. Avec vous, Isabelle Langer, bonsoir.
Bonsoir.
On va parler vélo.
Ah bah forcément, et on a un invité exceptionnel, ça tombe bien. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. On pourra parler naturellement de la victoire de Christophe Laporte qui a remporté Gant Wevelgem. Au programme également de la moto, il y a beaucoup de choses à dire. Ça s'est pas super bien passé pour les Français, notamment pour Quartararo au Grand Prix de Portugal, premier Grand Prix de la saison. Et puis on parlera également d'escrime. Vous savez que c'est le premier sport à réintégrer le mois prochain les Russes et Bélarus. Ça fait jaser.
Un sacré menu à 19h15. On refait le sport. À tout à l'heure, Isabelle.
RTL dimanche soir.
Retour au calme dans les Deux-Sèvres, ambiance qui contraste avec le chaos d'hier en marge de la manifestation de Sainte-Soline contre les bassines, ces retenues d'eau pour l'agriculture. Les violences, on le rappelle, ont fait des dizaines de blessés. Un manifestant se trouve toujours entre la vie et la mort. Et on l'apprend ce soir, 24 heures après ces scènes de violence. Maxime Lévy, il y a eu de premières interpellations.
Oui, deux interpellations ont eu lieu aujourd'hui. Deux personnes suspectées d'avoir participé aux violences hier contre les gendarmes. Alors, il y avait déjà eu une quinzaine d'interpellations dans le cadre de ce rassemblement anti-bassines dans les Deux-Sèvres, mais c'était en amont des manifestations. Les forces de l'ordre avaient retrouvé de nombreuses armes, comme des haches, des machettes. Après les très nombreuses violences, les jets de pierres et d'explosifs par dizaines, plusieurs enquêtes sont ouvertes par le parquet de Niort. On sait également que 45 gendarmes ont déposé plainte parmi les 47 militaires blessés. Enfin, les deux gendarmes qui avaient été accueillis en urgence absolue à l'hôpital sont désormais en urgence relative. Et puis par contre, un manifestant, vous l'avez dit, âgé de 30 ans, est toujours entre la vie et la mort, hospitalisé. Il est dans le coma après un grave traumatisme crânien. Voilà ce que nous indique donc le parquet de Niort ce soir.
Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
Et les organisateurs dénoncent, Antoine, les dérives violentes de l'État.
Et accusent notamment les forces de l'ordre d'avoir empêché le travail des secouristes, d'avoir entravé l'évacuation des blessés. Accusation relayée par la Ligue des droits de l'homme et reprise par la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, tout à l'heure dans RTL Soir. Elle était dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline ce week-end.
Je constate que le plan d'évacuation sanitaire, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en avait pas, évidemment qu'il devait y en avoir un, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas satisfaisant et la personne qui est dans le coma aujourd'hui, la LDH démontre, texto, appel, preuve à l'appui, que ça a pris plus de 3h40 pour pouvoir l'évacuer. Moi, la jeune fille avec qui nous étions, c'est à peu près la même chose. Heureusement, son pronostic vital ne serait plus engagé à l'heure actuelle, mais elle a été dans des souffrances atroces. Elle avait eu un tir de grenade à tir tendu dans la tête. Elle avait un enfoncement orbitale, elle avait la mâchoire arrachée. Elle était entreposée avec d'autres blessés sur un talus loin des affrontements.
Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, invitée de RTL Soir. Les scènes de chaos à Sainte-Soline alors que s'ouvre une nouvelle semaine de mobilisation contre la réforme des retraites. L'exécutif en a bien conscience. Demain, Emmanuel Macron reçoit sa première ministre Elisabeth Borne et plusieurs cadres de la majorité présidentielle. Nous serons donc à la veille de la grande journée de mobilisation de mardi.
Oui, mais en attendant, les grèves se poursuivent. Les raffineries notamment, elles tournent au ralenti.
Et conséquence, 15% des stations-service manquait d'au moins un carburant ce week-end et c'est encore plus compliqué dans le sud et dans le Grand Ouest, si bien qu'en Loire-Atlantique par exemple, les automobilistes sont obligés de jouer les coudes. Reportage près de Saint-Nazaire, Nicolas Bobby.
Les stations-service étaient fermées aujourd'hui à Pontchâteau. Impossible une fois de plus pour Amandine de faire le plein.
2 heures de route tous les jours, donc c'est un peu la galère, c'est la course, il y a la pénurie partout. Bah, c'est compliqué quoi. Les prix ont augmenté, on n'a droit qu'à 30 litres de carburant.
C'est un stress permanent.
Bah oui, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir aller faire ses courses, si on va pouvoir aller au boulot.
À Nantes, pour Julien, c'est le parcours du combattant.
Toutes les stations sont prises d'assaut régulièrement. Et on a effectivement un manque de carburant régulier. Et il faut sortir des grosses agglomérations, je pense, pour en trouver quoi. C'est ce que je fais, je prends la route et je m'éloigne, parce que je fais beaucoup de routes. Et donc je ne cherche pas localement, je vais dans les petits patelins autour.
Dans le vignoble nantais à Valette, Aude achète plus facilement du bon muscadet que de l'essence.
Et des fois les stations sont fermées ou pas réapprovisionnées, et puis bah là, faut aller un peu plus loin quoi. Mais j'essaie toujours d'anticiper. J'attends pas d'être à la fin pour aller faire le plein, parce que sinon j'ai peur de pas pouvoir aller bosser quoi.
Pour beaucoup, la tournée des pompes a remplacé la balade dominicale au bord de la mer.
Reportage signé Nicolas Bobby pour RTL. Et puis on connaît les prévisions SNCF et RATP. Demain, 4 TGV sur 5 rouleront, 2 TER sur 3. Ce sera également perturbé mardi. Mardi qui sera une journée noire dans le RER en région parisienne. Un train sur deux sur les lignes A et B. Des difficultés également dans le métro. Enfin, du côté des poubelles, elles sont progressivement ramassées à Paris. 7800 tonnes de déchets restent sur les trottoirs ce dimanche soir. Mais attention, la CGT appelle désormais les éboueurs du privé à la grève.
Et c'est d'ailleurs justement le thème de notre série de la semaine sur RTL. RTL qui donne la parole à ces travailleurs de l'ombre.
RTL.
7 jours, 7 reportages.
Éboueur, femme de ménage, cantonnier, dernier épisode ce soir, rencontre avec un cordiste. Ces travailleurs qui nettoient les vitres, les façades des tours d'immeubles. Benjamin est cordiste depuis 5 ans et il se confie à Pierre Bazin.
Je m'appelle Benjamin Hameau, je suis technicien cordiste depuis 2018. Et là, notre mission du jour, c'est donc nettoyage de la façade. Là, au plus haut, il y a 8 étages, donc 25 mètres. Et puis, on va descendre sur nos cordes à l'endroit où on veut travailler. Et du coup, là, on va pouvoir procéder au nettoyage à l'eau claire, à haute pression. C'est un métier que j'aime beaucoup, d'évoluer sur des cordes, d'avoir une certaine souplesse, d'être en l'air. En toiture, souvent, c'est assez joli.
Ce métier, vous l'aimez, vous en parlez avec le sourire, mais c'est un métier difficile.
Oui, comme tout métier physique et du bâtiment en général. On peut avoir toutes les problématiques qu'on va retrouver dans ces métiers-là. Une fatigue générale de toute façon aussi, le fait de porter du matériel lourd, d'être suspendu toute la journée. Au bout d'un moment, il y a le harnais aussi qui provoque un peu des douleurs, de circulation, etc.
Combien on gagne quand on fait ce métier?
Je dirais qu'un cordiste en intérim, il peut prétendre à 16 euros de l'heure. La considération, moi je trouve qu'on en a. Mais voilà, en termes de considération financière, il y aurait peut-être un effort à faire de manière générale dans la société sur tous ces métiers-là. Ouais.
Témoignage au micro RTL de Pierre Bazin.
Il est 19h07, on marque une courte pause et puis dans un instant, un répit pour le ticket de caisse.
RTL dimanche soir. Après de longs mois d'hibernation, le Yeti ne se sentait pas au top de sa forme. Alors quand il découvrit les ventes flash de printemps Amazon avec des réductions jusqu'à moins 40%, il s'offrit un mixeur pour reprendre du poil de la bête. Oh, un smoothie à la pomme de pin. Et maintenant, il se sent prêt à soulever des montagnes. Économisez jusqu'à 40% pendant les ventes flash de printemps Amazon. Du 27 mars 18h et jusqu'au 29 mars.
Ce soir, dès 21h, sur M6, les 30 ans de zone interdite. Sexe, famille, pouvoir, 50 ans de révolution dans les rapports hommes-femmes. Sur W9, retrouvez le bagou et la sympathie désarmante de Jean-Paul Belmondo dans Flic ou voyou. Sur Sister, Twilight chapitre 5, Révélation partie 2. Le sensationnel épilogue de la saga avec Kristen Stewart et Robert Pattinson. Bonne soirée sur les chaînes du groupe M6.
À la mer. À la montagne. Dans la restauration.
Deux bavettes, un café, un tiramisu.
Le sport. ou encore la culture, il y a forcément un métier du tourisme qui vous correspond. La semaine des métiers du tourisme, c'est du 3 au 9 avril 2023. Visite d'entreprise, journée portes ouvertes, job dating, conférences, animations. Retrouvez tous les événements organisés dans votre région en vous rendant sur monemploitourisme.fr. Ceci est un message du gouvernement.
18h, 19h15, RTL dimanche soir.
Avec Vincent Parisot.
Et Antoine Cavalierou pour le journal. Antoine, notre ticket de caisse fait de la résistance.
Les magasins ne devaient plus les imprimer systématiquement à partir du 1er avril, donc samedi prochain. La mesure est finalement de nouveau repoussée. Virginie Garin, l'inflation est passée par là.
Oui, alors cette mesure, elle a déjà été repoussée une première fois. Elle devait entrer en vigueur le 1er janvier, mais le gouvernement avait donné 3 mois de plus au commerce pour s'adapter. Eh bien, elle est à nouveau reportée cette fois pour permettre aux consommateurs de bien comprendre ce qu'ils payent en cette période de forte inflation. C'est mieux d'avoir les tickets de caisse pour comparer les prix d'un achat à un autre. Cette nouvelle loi, elle prévoit de ne plus avoir de tickets systématiquement imprimés, sauf si on le demande. Le magasin peut vous l'envoyer par mail. Alors l'intérêt est bien sûr écologique. Les tickets de caisse, ce sont 150 000 tonnes de papier gaspillées chaque année. Mais ce report ne veut pas dire abandon. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, devrait donner la nouvelle date d'entrée en vigueur en début de semaine. Ce sera le 1er août ou le 1er septembre.
Virginie Garin. Et puis on l'apprend à l'instant, la France condamne ce soir l'intention du président russe Vladimir Poutine de déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. Paris qui appelle Moscou à faire preuve de responsabilité. De son côté, l'Union européenne menace la Biélorussie de nouvelles sanctions si Minsk accueille ces fameuses armes nucléaires russes.
Quelques infos sport avec tout d'abord une très belle image bleu-blanc-rouge en vélo.
Christophe Laporte, vainqueur sur la classique Gore-Wevelgem, arrivé main dans la main avec son coéquipier Wout van Aert. Laporte, quatrième français sacré sur cette course flamande. La MotoGP, Bagnaia qui remporte le premier Grand Prix de la saison au Portugal. Zarco est quatrième, Quartararo huitième. Le rugby féminin, les Françaises lancent parfaitement leur tournoi des Six Nations, 22-12 contre les Italiennes.
Et puis cette aventure qu'on vous a fait vivre sur RTL.
Six rameuses landaises parties à l'autre bout du monde. Elles ont traversé le Pacifique, 8000 km entre le Pérou et la Polynésie française. 8000 km à la rame, c'est un record du monde et c'est pour une noble cause, soutenir des enfants atteints de cancer. Elles sont arrivées à Moréa hier soir et Alexandra et Stéphanie ont été accueillies en héros.
Incroyable, c'est vraiment l'aboutissement de 3 années. Le mental a été déterminant, on a chacune eu des hauts et des bas durant ces 80 jours. On l'a fait donc on est vraiment contents.
Je pense qu'il est très difficile, c'est bon, se lever la nuit pour ramer dans toutes les conditions, des conditions très changeantes, être éloigné de notre famille.
Mais maintenant tu seras plus fatiguée.
Oh, maintenant. Voilà, maintenant je serai plus fatiguée parce que je serai sur Terre. Quand ça allait pas, on avait des petits coups de blues, on s'est dit allez, l'arrivée, il va voir tout le monde. On lâche pas et du coup c'est chouette, c'est une belle arrivée. Fantastique.
Alexandra et Stéphanie accueillies en héroïne. Évidemment.
Forcément.
La météo, Anthony Kaczmarek, chez nous, ça souffle fort le long de nos côtes.
Oui, notamment ce soir sur le sud de la côte atlantique, rafales encore à plus de 100 km/h. Et puis cette nuit, près de la Méditerranée, on attend des rafales entre 100 et 120 km/h. La tramontane d'une part et le vent d'ouest. En Corse, d'autre part, demain, retour progressif au calme sur tout le pays. Un ciel bien dégagé près de la Méditerranée, très ensoleillé, avec un vent qui va faiblir au fil des heures. Et puis ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies de plus en plus belles au fil des heures. Il y aura encore quelques averses le matin du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est. Dans l'après-midi, uniquement dans le nord-est, ces averses, avec de la neige des 600 à 700 mètres en forte quantité sur le Jura et les Alpes, où le risque d'avalanche sera d'ailleurs très fort. Et puis les températures vont bien baisser, on va se rapprocher des gelées au réveil. Dans l'après-midi, plus que 9 degrés seulement à Lille et à Clermont-Ferrand, 10 à Strasbourg, 11 à Paris et Lyon, 14 à Nantes et Biarritz, mais encore 17 à Marseille, 21 à Bastia. Températures qui vont faire le yo-yo, hein. Toute la semaine ça va remonter. Mercredi, jeudi, ça va rebaisser pour le week-end.
Eh bien c'est noté, on est prévenu, en tout cas. Merci Anthony. Merci Antoine Cavalierou. Vous revenez pour le 20h.
Tout à fait.
Bah voilà,
avec Isabelle Langer.
On prend note avec Isabelle Langer qui maintenant prend le relais, qui refait le sport avec, on a dit, un joli programme et notamment le patron du Tour de France.
Christian Prudhomme qui sera avec nous dans la seconde partie de l'émission. Puis on entendra aussi Kylian Mbappé qui veut s'attaquer au record de Michel Platini. C'est tout de suite.
À tout de suite. Belle soirée avec RTL.
RTL dimanche.